Programme de la Faculté des Lettres de Bordeaux. Deuxième année du premier cycle, cours de français de M. Tocane. L'humanisme et les problèmes religieux de la Renaissance.
Nous allons examiner aujourd'hui le problème extrêmement complexe des rapports entre le mouvement humaniste et les problèmes religieux à l'époque de la Renaissance. La Renaissance a été, c'est une chose bien connue, le théâtre d'une crise religieuse très profonde qui a abouti à la Réforme. Il n'est pas question, dans les remarques qui vont suivre, de donner une vue d'ensemble, même très sommaire, des problèmes religieux de l'époque, mais de vous permettre de voir quels ont été les effets de l'humanisme dans cette crise et les relations que le mouvement humaniste a pu entretenir avec le mouvement de réforme religieuse. Pour avoir une vue plus complète du problème, vous pourrez lire dans l'ouvrage de Delumeau les chapitres qui se rapportent à la question et le livre fondamental de Lucien Febvre sur le problème de la croyance au XVIe siècle. L'humanisme posait en lui-même déjà un problème religieux. Était-il possible de vouloir restaurer les études antiques, de prendre pour modèle de vie et de pensée les anciens, sans mettre en cause du même coup certains aspects de la révélation chrétienne, ou du moins sans rejeter certaines exigences de la morale chrétienne? La pensée antique est païenne, elle n'est pas chrétienne. Les humanistes, s'ils voulaient rester chrétiens, devaient trouver le moyen de concilier l'héritage antique avec la tradition chrétienne, l'idéal de la sagesse antique avec l'idéal chrétien. C'est un problème qui s'était déjà posé au premier siècle de l'histoire du christianisme et qui se reposait à nouveau, étant donné que l'humanisme rejetait la grande synthèse opérée par le Moyen Âge entre la pensée antique et la pensée chrétienne. Mais l'humanisme s'est développé en même temps dans un climat de crise religieuse auquel il a participé et qu'il a contribué à développer. Comment s'est-il posé par rapport à ce problème? La crise religieuse du XVe et du XVIe siècle ne tenait pas seulement à un certain nombre d'abus de l'Église, déjà anciens et souvent dénoncés, sans qu'il en ait résulté de crises vraiment graves, comme la décadence des ordres religieux, la négligence des évêques, qui souvent ne résidaient pas dans leur diocèse et se contentaient d'en toucher les revenus, ou même les scandales de la papauté de la Renaissance, plus occupée d'agrandir ses territoires, de bâtir des monuments, et plus soucieuse de biens temporels que des problèmes spirituels de la masse des fidèles. Cette crise tenait plus profondément à un climat d'inquiétude religieuse, diffus dans la masse du peuple chrétien. De multiples témoignages révèlent notamment un sentiment aigu de la faute et du péché, une angoisse de l'enfer et de la mort, qui traduit une angoisse profonde du salut personnel que le Moyen Âge n'avait pas connu avec le même paroxysme. La piété populaire cherche consolation dans le culte de la Vierge, des saints, des reliques, des pèlerinages, dans la vision du Christ souffrant et douloureux dans laquelle elle se retrouve et qui s'oppose au Christ en majesté du Moyen-Âge. On prête une voix souvent docile aux prédicateurs qui annoncent des malheurs imminents et prêchent la conversion, comme Savonarole à la fin du XVe siècle à Florence. Et on assiste au développement de communautés marginales et hétérodoxes que l'on appelait les communautés de libertins ou de spirituels, qui se réclamaient d'une révélation directe de Dieu en face de l'Église institutionnelle, incapable de répondre à ce monde d'inquiétude et d'aspiration religieuse. La réforme apportera précisément une réponse claire à cette inquiétude, et ce sera la cause de son succès. L'idée d'une réforme est dans l'air, bien avant Luther et Calvin d'ailleurs. On appelle la réunion d'un concile qui prendrait les réformes nécessaires, mais il faudra le choc de la réforme protestante pour que la papauté comprenne la gravité de la crise. C'est dans ce climat incertain que l'humanisme fait son apparition au XVe siècle. Quels sont d'abord les rapports de l'humanisme et des problèmes religieux avant l'apparition de la réforme, proprement dite? L'humanisme, par certains de ses aspects, a préparé la réforme. Et d'abord dans les problèmes qui concernent la Bible. L'imprimerie a permis une plus large diffusion des œuvres religieuses dans le public capable de lire. De 1445 à 1520, on estime que 75% de la production des livres imprimés comprenait des livres religieux, livres de piété comme l'Imitation de Jésus-Christ et aussi la Bible, traduite en français en 1487. Les laïcs peuvent maintenant avoir un contact direct et personnel avec la Bible, ce qui va dans le sens d'une piété plus individuelle, correspondant à la montée de l'individualisme de l'époque. Et ils peuvent trouver eux-mêmes dans la Bible la réponse à leurs inquiétudes et à leurs questions. La voie est ouverte à l'interprétation personnelle de l'Écriture, bien avant la réforme. Un auteur allemand, constatant que l'Allemagne était littéralement inondée de Bibles à la fin du XVe siècle, s'en plaignait amèrement. « On tourne et on retourne la Bible, disait-il. On lui fait dire tout ce qu'on veut et l'on met en péril et la foi et la Bible qui est le fondement de la foi. » Ce mouvement de diffusion et de vulgarisation de la connaissance de la Bible n'est pas d'origine humaniste. Mais il a été approuvé par beaucoup d'humanistes, dont Erasme. Et vous devez vous rappeler que Rabelais, dans son programme d'éducation, recommande la lecture journalière et personnelle de la Bible. Les humanistes ont approuvé un mouvement qui permettait aux fidèles de retourner aux sources, comme dans la lecture des ouvrages antiques, et de retrouver, au-delà des commentaires, le texte direct de la parole divine. Les humanistes ont contribué eux-mêmes à ce mouvement en éditant et en traduisant la Bible. Et ils ont voulu appliquer au texte sacré les méthodes d'érudition philologique qu'ils appliquaient à l'égard des textes antiques, c'est-à-dire retrouver un texte exact. Le grand humaniste italien, Lorenzo Valla, dans la première moitié du XVe siècle, avait ainsi rédigé des remarques sur le Nouveau Testament, dans lesquelles il soulignait les erreurs de la Vulgate. La traduction latine faite par saint Jérôme sur le texte hébreu et qui était le texte officiel de l'Église. Erasme, le grand humaniste hollandais, publia lui-même ses annotations de Lorenzo Valla en 1505 et il édita en 1516 lui-même un nouveau testament fait d'après le texte grec. En ce sens, l'humanisme ouvre la voie à la réforme protestante par son souci de retrouver un texte biblique authentique. D'autre part, réagissant contre les abus des commentaires scolastiques, les humanistes ont voulu retrouver une interprétation de la Bible qui soit délivrée de tout le poids des commentateurs de la tradition médiévale. Dans son Nouveau Testament, Érasme écarte les commentaires théologiques et métaphysiques traditionnels pour s'en tenir à l'enseignement du texte lui-même. Un humaniste français, Lefèvre d'Étaples, écrivait « On ne doit affirmer de Dieu que ce que nous apprenons de lui par l'Écriture. Il s'agit de retrouver dans l'Écriture, lue en elle-même, la vérité de la foi, sans l'enserrer dans le tissu des commentaires développés par la scolastique médiévale. » La démarche est parallèle à celle que l'on constate dans le domaine des textes antiques. Restait le problème des rapports entre l'héritage antique et le christianisme. Tout un courant humaniste cherche à concilier la philosophie antique et la révélation chrétienne. À Florence, dans la deuxième moitié du XVe siècle, Marcille Ficin, né en 1533 et mort en 1599, se fait le restaurateur de la philosophie de Platon, dont il extrait une philosophie de l'amour qui exercera une influence considérable sur la Renaissance. Il existe dans l'homme, dit-il, un amour naturel de Dieu qui se manifeste sous des formes diverses dans les différentes religions. Ficin, retrouvant dans les philosophies et les religions de l'Antiquité comme des traces de la révélation chrétienne, définit ainsi une sorte de théologie naturelle commune à tous les hommes. Un Dieu qui est lumière, beauté et amour, et attire à lui par la beauté de son œuvre l'homme qui ne doit pas s'arrêter à la jouissance des beautés matérielles du monde, mais retrouver au-delà d'elles la beauté divine dont elles sont le reflet. Cette philosophie justifiait en un sens l'art et l'amour du beau. Elle était accordée au goût des artistes contemporains avec lesquels Ficin était en rapport. Sans doute, cette philosophie conservait-elle au christianisme et à la révélation une place privilégiée dans l'ensemble des religions. Mais elle tendait à affaiblir la nécessité de la révélation et de la foi et à fondre le christianisme dans un ensemble plus vaste, celui de la théologie naturelle. Cette tentative de synthèse entre le platonisme et le christianisme écartait en fait l'image du Christ, l'idée du péché chrétien, et manifestait la difficulté de concilier la vénération des anciens et tous les aspects de la foi. Son contemporain, Pic de la Mirandole, né en 1463 et mort en 1499, séduit par la philosophie hébraïque, pensait que la Bible elle-même ne contenait qu'une partie de la révélation dont il fallait aller chercher le complément dans la tradition hébraïque de la Kabbale. Sans nier la valeur de la Bible, Pic de la Mirandole en affaiblissait le caractère privilégié. Sur d'autres points, il semble qu'il ait mis en doute l'enseignement traditionnel de l'Église. Avec lui, comme avec Ficin, s'affirmait la tendance de l'humanisme à réfléchir librement sur les problèmes religieux sans se soumettre à la juridiction étroite de la théologie traditionnelle. On comprend alors le caractère ambigu de ces deux tentatives, qui ont pu paraître aussi bien des essais de synthèse entre le christianisme et la pensée antique, que comme un premier moment, une première manifestation de la décomposition de la pensée chrétienne. Cependant, à côté de ces spéculations métaphysiques, inspirées par le platonisme, se développe un courant différent, lui aussi d'ailleurs en rapport parfois avec la philosophie platonicienne, mouvement que l'on appelle l'évangélisme. L'un de ses représentants le plus caractéristique en est sans doute Érasme. Érasme, dont la pensée dernière est souvent difficile à saisir, a cherché à définir ce qu'il appelle la philosophie du Christ, c'est-à-dire une religion intérieur, fondé sur l'amour du Christ et la pratique des vertus évangéliques, débarrassé des superstitions populaires, aussi bien que des spéculations de la théologie médiévale qu'Érasme méprisait profondément. Une religion personnelle, dans laquelle les sacrements occupent peu de place, ainsi que l'autorité de l'Église institutionnelle, dont il a dénoncé les abus et les scandales, par exemple dans son ouvrage le plus célèbre, L'éloge de la folie, paru en 1511. Erasme a édité dans ses adages, réédité souvent et accru d'édition en édition, des recueils de proverbes antiques, dont la sagesse lui paraissait toujours actuelle et vivante. Les anciens sont pour lui des maîtres de sagesse, mais il sait aussi prendre ses distances à leur égard, et il a protesté, par exemple, contre le culte trop exclusif que les humanistes italiens vouaient en général à l'art de Cicéron. Des anciens, Erasme retire une leçon de sagesse et une conception optimiste de l'homme, dont la nature est, dit-il, une inclination, une propension profondément instinctive au bien. L'homme est né, ajoute-t-il ailleurs, pour aimer la sagesse et les belles actions. Et l'humanité antique, à ce titre, est un modèle qui ne s'oppose pas aux vertus chrétiennes. Par sa correspondance, par les multiples relations qu'il a entretenues avec les humanistes de son temps, Erasme a exercé une profonde influence. Avant Luther et Calvin, il représente toute une tendance réformatrice qui veut purifier la foi sans rompre avec l'Église. On retrouve chez l'un de ses amis et disciples, l'anglais Thomas More, l'écho de sa pensée dans l'œuvre fameuse qui s'intitule « L'Utopie », parue en 1516, et qui évoque un pays idéal dont les habitants pratiquent une sorte de déisme tolérant, se résumant à quelques articles de foi simples, existence de Dieu, immortalité de l'âme, reconnaissance des vertus morales, credo qui leur permet d'accepter sans trouble la diversité des religions. En France, Lefèvre d'Étaples développe la vision d'une religion intérieure fondée sur la pratique de l'écriture et la pratique des vertus évangéliques. C'est un écho de ce mouvement que l'on peut retrouver dans Rabelais, notamment dans la pratique religieuse de ses héros ou dans la lettre de Gargantua à Pantagruel. Rabelais, dans la ligne de l'évangélisme, insiste beaucoup sur la lecture personnelle de la Bible, sur une relation directe de l'homme avec son Créateur. Il tend à estomper singulièrement l'autorité institutionnelle et l'institution même de l'Église. Le mouvement humaniste réformateur avait rêvé d'une réforme intérieure de l'Église, sans rupture avec l'Église institutionnelle. La réforme protestante, mettant fin à ce projet, va obliger les humanistes à prendre position. Il nous faut donc examiner maintenant le sort des relations qui s'établissent entre l'humanisme et les problèmes religieux après l'apparition de la Réforme. En 1521, Luther est condamné par la diète de Worms et refuse de se soumettre. C'est la naissance officielle de la Réforme protestante et la fin de l'unité de l'Église médiévale. La conséquence en fut, dans une large mesure, une rupture de l'humanisme et de la Réforme. L'humanisme avait pourtant, à bien des égards, nous l'avons vu, préparer la Réforme. Mais l'esprit profond de l'humanisme ne peut pas s'accommoder d'une théologie qui insiste sur la déchéance de l'homme, la toute-puissance du péché, et refuse l'optimisme de l'humanisme, cette confiance qu'il met dans les possibilités de l'homme. Au fur et à mesure que la Réforme s'affirme et confirme son anti-humanisme, au moins en ce domaine de la conception de l'homme, beaucoup d'humanistes refusent la Réforme. Erasme est condamné par Luther, qui polémique avec lui. Rabelais est dénoncé par Calvin comme un impie en 1550. À son tour, Rabelais attaque le calvinisme dans le Carlivre. Il développe, dans le chapitre 32, le célèbre mythe de physis et d'antiphysis, c'est-à-dire de nature et d'antinature. Et il oppose les produits de nature, qui a enfanté beauté et harmonie, aux produits de l'antinature, qui engendre des êtres difformes, et parmi eux les démoniaques Calvin, imposteurs de Genève. Le calvinisme, avec son ascétisme rigoriste, cette théologie de la grâce qui limite la liberté humaine, représente pour Rabelais une négation de la nature. On saisit ici, sur le vif, l'opposition entre l'optimisme de l'humanisme, sa confiance dans la nature humaine, sa volonté de développement harmonieux dans la beauté de toutes ses facultés et l'esprit de la réforme. D'autres humanistes se détachent de toute orthodoxie et travaillent à l'élaboration d'une sorte de déisme qui préfigure celui du XVIIIe siècle, poursuivant le rêve d'une religion naturelle qui serait capable de réconcilier dans un esprit de tolérance les différentes religions. Sans doute, tous les humanistes n'ont-ils pas rompu avec la réforme. Erasme, lui, a rompu. Mais en Allemagne, un humaniste comme Melanchthon s'est rallié à la réforme et il a contribué par son action à réintroduire, pour ainsi dire, à l'intérieur même de la réforme, un sens de la culture antique que tout un autre aspect de la réforme tendait à éliminer. Mais il est certain qu'après l'apparition officielle de la réforme, les rapports entre l'humanisme et, disons, les tendances réformatrices ont connu un jour nouveau. L'humanisme continue cependant à être une force vivante. Et pour nous en tenir à la France, nous allons voir comment ces deux esprits fort différents se continue ce que l'on pourrait appeler le dialogue entre l'Antiquité et la foi chrétienne, et d'une manière particulièrement significative et exemplaire. Prenons d'abord le cas de Ronsard. Nourri de littérature et de thèmes antiques, Ronsard en fait la matière d'une inspiration qui n'est pas chrétienne. Il développe dans ses amours une conception qui s'inspire de Pétrarque, mais en élimine les résonances religieuses. L'or, la femme chantée par Pétrarque avait été pour lui, après sa mort surtout, une sorte d'inspiratrice et d'aide vers la vertu. Cassandre ou Hélène n'inspirent pas à Ronsard le désir de la vertu, mais le désir de la possession. Ronsard célèbre la mort de Marie dans une tonalité antique, sans aucune référence à la vision chrétienne de la mort. Il élimine de son inspiration amoureuse tout élément platonicien, il ne voit pas dans l'amour de la femme et de sa beauté comme une sorte de premier degré qui peut élever l'homme à la contemplation du divin, comme l'avait affirmé Marcille Ficin. Dans ses hymnes, il évoque les fables antiques et mythologiques qu'il enchante pour leur beauté. Il a célébré dans ses odes, à la manière d'Horace, les plaisirs charnels de la vie, l'amour, le vin. Il a aimé la gloire et a rêvé de s'immortaliser comme les héros antiques par la gloire de la postérité. Par tous ses traits bien connus, Ronsard apparaît comme une sorte de personnage païen. Et pourtant, Ronsard reste chrétien. Il est hostile à la réforme et le proclame dans ses discours en 1562 et en 1563. Il reconnaît les abus de l'Église mais repousse une nouveauté théologique qui constitue une menace pour l'autorité royale et l'unité du pays. Attaqué par des pasteurs de Genève dans ses mœurs et sa vie privée, il se justifie et affirme la pureté de sa vie et de sa foi. Quand on examine l'ensemble de son œuvre, Ronsard offre le spectacle déroutant, mais très caractéristique pour l'époque, d'une personnalité qui unit en elle une âme antique et une foi chrétienne, sans qu'il existe la conscience d'une contradiction, d'un conflit ou d'un problème entre deux mondes aussi différents. Ronsard n'a pas écrit de poème où il se repente de ses amours ou de ses errements. Il n'éprouve pas de scrupules à chanter l'amour, à savourer les plaisirs de la vie et à s'affirmer en même temps chrétien, de foi, sinon toujours de mœurs. Il représente à cet égard le symbole de tout un aspect de la Renaissance, celui que la Réforme précisément mettra en cause, et notamment Calvin. Ronsard porte en lui, comme beaucoup de ses contemporains, plusieurs mondes qui coexistent sans se fondre ni se confondre, mais sans s'opposer non plus entre eux. Le cas de Montaigne illustre un tout autre aspect des rapports entre la tradition humaniste et le christianisme. Né chrétien, Montaigne est mort chrétien. Il n'a jamais mis en doute la vérité de la foi. Mais cette foi est pour lui un ensemble de vérités inaccessibles à la raison et de pratiques qu'il faut respecter parce qu'elles sont coutumes. Il condamne la Réforme, qui prétend juger de tout ce qui est inaccessible à la raison, et introduit en même temps une menace mortelle pour la paix civile et l'autorité politique. Montaigne écrit, il ne faut pas l'oublier, en pleine période de guerre de religion. L'apologie de Raymond de Sebonde est écrite en partie contre les protestants. Elle affirme l'incapacité de l'homme à saisir la vérité divine par lui-même, indépendamment d'une révélation qu'il faut accepter sans la discuter et sans chercher à la justifier. Des raisons théoriques, la faiblesse et les limites de la connaissance humaine, des raisons pratiques, l'observation des malheurs provoqués par les querelles théologiques, invite Montaigne à se détourner de toute curiosité sur la matière de foi, à respecter la foi de ses ancêtres. Mais cette position permet en même temps à Montaigne de respecter la religion sans pratiquement la faire entrer dans son horizon. La vérité de la foi constitue une sphère qu'il laisse à d'autres le soin de débattre, et la pratique de la vie chrétienne se limite en définitive à une pratique extérieure, ce qui ne veut pas dire hypocrite, mais sans influence sur le comportement réel de l'homme. Toute la méditation de Montaigne se développe ainsi en dehors, ou plus exactement, à côté d'une foi dont on ne discute pas le bien fondé, mais qui est rejetée dans une sphère lointaine, étrangère aux problèmes de la vie concrète. « Il n'est rien si beau, écrit Montaigne, et légitime, que de faire bien l'homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. » Telle est l'ambition de Montaigne, qui limite son horizon à la recherche d'un art de vivre tout humain et terrestre, sans référence à une réalité divine ou à une morale religieuse. Avec Montaigne, l'humanisme, sans prendre une position hostile au christianisme, s'engage dans une réflexion autonome par rapport au christianisme. La réflexion de Montaigne n'est pas commandée par la méditation de l'Évangile, elle ne se donne pas pour objet l'imitation du Christ, comme dans l'évangélisme, elle se nourrit de la sagesse antique et de l'expérience de la vie. Montaigne représente en ce sens l'aboutissement d'une tendance virtuelle de l'humanisme, l'autonomie de la réflexion par rapport à la vérité religieuse qui, sans être critiquée, est pour ainsi dire mise à l'écart de la pensée et de la vie. Il en résulte une dissociation très différente de celle que l'on pouvait observer chez Ronsard entre la théorie et la pratique de la vie, entre l'affirmation de la foi et le libre développement d'une réflexion qui se cantonne dans la recherche d'une sagesse purement humaine. En ce sens, Montaigne représente sans doute l'aspect le plus significatif de l'humanisme et de ses rapports avec la religion. À l'origine, l'humanisme ne s'est pas voulu anti-religieux ni anti-chrétien. Mais, qu'il le voulût ou non, l'humanisme avait introduit dans la culture chrétienne de l'Europe les éléments d'une culture qui ignorait le christianisme et comportait une force capable de disloquer l'édifice de la culture médiévale chrétienne, parce qu'elle éveillait et suscitait une forme de réflexion libre et autonome. Et Montaigne, à cet égard, en est un cas exemplaire.